vue d'ensemble de l'actualité.
On est tous responsables, les gouvernements, là, puis j'essaie pas de nier et puis de me défiler, mais on était mal préparé dans nos CHSLD. Il va falloir, une fois la crise réglée, là, qu'on s'assure qu'on traite beaucoup mieux nos aînés. Effectivement, c'est un peu gênant ce qu'on a devant nous.
Trêve PM.
Alors, c'était François Legault le printemps passé, donc qui commentait l'histoire d'horreur qui, se révélait sous nos yeux à ce moment-là dans différents CHSLD du Québec. Puis là, hier, deux rapports. Un sur le CHSLD Heron, un autre sur le CHSLD Sainte-Dorothée à Laval. Là, je vais vous lire des extraits des deux rapports, OK? Puis je vais prendre le temps de le faire. Puis après ça, Luc va réagir. Je commence par le CHSLD Heron. OK, je vous le rappelle, 38 morts en 10 jours. C'est ça, le CHSLD Heron. 38 morts en 10 jours. Un premier cas de COVID est confirmé. Les employés désertent les lieux. Ça, c'est des extraits là, que je vous lis du rapport de l'enquêteur Sylvain Gagnon. Il ne restait que 3 membres du personnel du CHSLD Heron pour prendre soin de 133 résidents. L'état des lieux, odeur nauséabonde d'urine et de sel, des planchers collants, des chariots à échelle pour les repas qui sont sales, des repas qui sont servis dans de la vaisselle jetable en styromousse, les aliments sont froids. Les plateaux de dîner sont toujours dans les chambres, malgré qu'on soit rendu à l'heure du souper. Donc, vous avez des résidents qui n'ont pas mangé de la journée. Résidents souillés dans leurs excréments. Plusieurs résidents assoiffés, déshydratés, avec la peau et les lèvres sèches. On est toujours dans le rapport, là. Plusieurs étaient souillés car les culottes d'incontinence avaient débordé et les lits étaient sales et les cernes laissent penser que ça datait de plusieurs jours. Lors des changements de culottes d'incontinence, certains résidents avaient la peau brûlée et l'hygiène des parties génitales n'avait pas été faite adéquatement. Il en est de même pour les pieds, les ongles et les yeux. Plusieurs résidents n'avaient pas de savon. L'eau était tiède ou froide. Pas d'eau chaude pour laver les résidents. On a constaté que beaucoup de pansements dont le changement n'avait pas été refait selon la prescription, il manquait aussi de literie. Sur les responsables du CHSLD, le rapport dit qu'ils ont manqué à leur devoir humanitaire et à leur devoir de courage face à l'adversité. Ils s'en sortent avec un blâme pour négligence organisationnelle. Par contre, l'enquêteur dit que leurs intentions n'étaient pas malveillantes. Il parle des propriétaires. Là. Je vous rappelle, le Heron, c'est un CHSLD privé. Dans la présente affaire, dit l'enquêteur, c'est une évidence que les dirigeants du CHSLD Heron ne pouvaient empêcher le triste sort qu'ont connu les résidents. Les gestionnaires ont demandé de l'aide à plusieurs reprises. Le CIUS n'a pas été capable de prendre le contrôle du CHSLD assez rapidement. Ça, c'est franchement inquiétant. Bien que le CIUS ait interpellé à de multiples reprises les autorités ministérielles, il n'a pas reçu les autorisations écrites nécessaires pour agir et intervenir auprès du CHSLD. Fait que tu as le CHSLD qui demande l'aide du CI3S ou du CIUS, et là, le CIUS se tourne vers le ministère de la Santé, puis il n'obtient pas le go pour aller débarquer dans le CHSLD. Fait que tu as visiblement un problème organisationnel, un problème de communication, un problème de bureaucratie. Dernier élément de ce rapport pour le CHSLD Heron, la réforme de Gaétan Barrette est montrée du doigt à cause notamment des manques d'effectifs, difficultés d'organisation, de communication dans le réseau de la santé. Ça, c'est pour le CHSLD Heron. Juste avant de passer à l'autre, l'enquêteur note quand même que les quelques employés qui sont restés ont été extraordinaires. Il parle notamment d'une médecin cadre d'Issus qui est débarquée avec son mari et ses enfants pour s'occuper des résidents abandonnés. C'est une histoire dont on vous avait parlé. OK, ça c'est pour le Heron. Sainte-Dorothée à cette heure. Je vous le rappelle, c'est à Laval, 100 décès sur 211 résidents atteints. près de 100 % des aînés y ont attrapé la COVID, ainsi que 173 employés. Là, on parle beaucoup, là, je vous le dis, là, d'un problème administratif. C'est vraiment impressionnant. Dans le rapport, l'enquêteur, M. Brunet, M. Benoît, il dit qu'il y a 5 niveaux hiérarchiques qui séparent le PDG du CI3S de Laval du premier répondant gestionnaire. Il dit « La réalité terrain demeure à grande distance et les communications d'alerte ne semblent pas être considérées à leur juste importance. » Le personnel du CHSLD lance des appels. Ils lancent des appels et ils ne sont pas entendus. Puis il y a tout le personnel d'agences privées à travers ça également qui se promène des zones chaudes aux zones froides, etc., etc. Donc, c'est vraiment pas jojo. Je vous le dis, là, il n'y a pas de quoi être fier. Luc, t'es là?
Oui, monsieur.
Réaction.
Je suis... Sincèrement, là, Bernard, je fais pas ça pour faire un show à la radio. Je viens de le lire, là. J'ai pas réussi à lire le rapport en entier, mais une bonne partie, et les reportages qui ont été faits. C'est tellement choquant. J'ai tellement honte qu'une société comme la nôtre en soit venue là. Et je constate que le gouvernement trouve moyen de dire, ben là, tu comprends, c'est pas nécessairement, j'ai des problèmes techniques. Non! Écoute, ils faisaient des appels à l'aide, des SOS qui étaient envoyés à leur CIS, puis CIUS, puis je sais pas quel autre, à la bon. Il n'y avait pas de réponse. Le système informatique à Sainte-Dorothée, il marchait pas. Mais c'est, êtes-vous malade? Puis il n'y a personne dans ça qui est congédié. Qu'est-ce qu'ils font les CIS puis les CIUS, Bernard? À un moment donné, tu as 7 médecins, puis comme tu as dit, on en a déjà parlé. Elle est au CIUS, puis elle est tannée. Ben, elle dit, garde, je vais aller les aider, on va arrêter de pousser du papier puis se regarder dans les yeux, là. Je vais aller les aider, puis elle est partie avec son mari puis ses enfants pour y aller. C'est épouvantable. Comment ça se fait qu'il met pas du monde à la porte? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de congédiement? Écoute, il y a des gestes.
Il leur a donné une chance. Luc, il leur a donné une chance pour la deuxième vague, là. Il leur a dit non, mais c'est ça qui est exactement ce qu'ils ont fait. Je le sais, là, je te le dis, là, c'est exactement quand Dubé est arrivé, il a dit aux dirigeants des CIS et des CIUS, là, je vous donne une chance. La dernière fois, il y a eu des bris de communication, etc. Là, je vous donne des directives très claires. Et ceux qui ne livrent pas, il y aura sanction. Grosso modo, là, c'est ça que le message a été de la part de Dubé envers les dirigeants des CIS et des CIUS.
Ouais. On verra. Hein.
On verra.
On verra.
On verra.
Parce que moi, là, Bernard, si tu ne fais pas de congédiement après des affaires comme ça, les employés sur les lieux... Je pense que les deux enquêteurs le soulignent.
Oui.
Ont été quasi héroïques, ceux qui sont restés.
Ceux qui sont restés. Oui, voilà. Ouais.
Okay.
Voilà. C'est ça.
Et pour le reste, tout ce que tu dis dans le rapport, c'est, ils ont appelé le CIS, ils ont appelé le CIUS, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Il y a 5 niveaux hiérarchiques. Il y a des systèmes informatiques qui marchent pas. Et qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, dans les édifices du ministère de la Santé? Écoute, Bernard, ça va prendre une réforme, une quasi-révolution dans ça, là. On apprend à quel point on est fragile. On vient peut-être de comprendre pourquoi nos urgences marchent pas. Cette affaire-là est gérée par une gang d'amateurs, pour ne pas dire pire. Je dis, c'est quoi cette incompétence?
Là, je te rappelle que le Heron est toujours sous tutelle du CI3S, là, de l'ouest de l'île. OK? Puis oui. Je te rappelle aussi qu'il y a plusieurs enquêtes qui sont en cours, notamment coroner, police.
Oui, l'enquête du coroner devrait être publique, Bernard. Donc, on va entendre des témoignages plutôt accablants.
Ah, ça va être effrayant.
Ça va être épouvantable.
Ça va être effrayant. Je veux juste te
dire. Ça fait lever le cœur. Vraiment, là, ça donne la nausée, tout ça.
Je veux juste te dire, par rapport à Sainte-Dorothée, tu sais, quand est arrivée la crise d'un CHSLD, à un moment donné, Legault est sorti en point de presse pour dire « Un des changements qu'on va faire dorénavant, c'est de s'assurer que chaque CHSLD a un dirigeant qui s'en occupe sur place. »
Il y a un boss.
Il faut qu'il y ait un boss. Bon, ben, c'est à la suite de ce qui s'est passé à Sainte-Dorothée qu'ils en sont venus à cette conclusion-là. Parce que, comme je l'ai dit, les gens sur le terrain au CHSLD Sainte-Dorothée, c'est comme s'ils n'arrivaient pas à parler à la tête du CIUS, du CIS, là, on le sait plus à un moment donné.
Personne les écoutait.
Mais c'est parce qu'il y a trop d'épaisseur entre le terrain puis la tête, comprends-tu? La bureaucratie est tellement stratifiée, il y a tellement de couches qu'à un moment donné, t'es plus capable. Alors là, une des recommandations, un des constats de l'enquêteur, c'est de dire ça en prend un dirigeant de haut niveau qui s'occupe de chaque CHSLD et qui est sur place, tu comprends, pour prendre des décisions.
Oui. Écoute, je trouve que ça fait pas de la grosse sanction, ça. Là. Le ministre leur a dit, va vous donner une deuxième chance. Puis tata. Écoute, on vient de découvrir, pendant la pandémie, que l'appareil d'État du Québec est dans un état sclérosé et incroyable. Et ça devrait être le défi du gouvernement à compter de maintenant de dire, nous allons vous offrir ce qu'il faut. Vous allez en avoir pour votre argent. Ils font quoi, ces gens-là? Je le sais pas. Je le sais pas.
Et là, je veux juste, on va s'en aller à la pause, Luc. Mais je veux juste vous dire qu'à 14 heures, Luc et moi, on va parler de cette entrevue que Marguerite Blais, ministre responsable des aînés, a donnée à Radio-Canada à la journaliste Madeleine Roy.
C'est honteux.
Dans laquelle elle dit, Marguerite Blais, le pouvoir, c'est celui que le premier ministre te donne.
C'était que...
Elle a, tu sais, alors...
Moi, j'ouvre un pool.
Ouais,
combien de temps elle va rester ministre?
Hein? Bon, c'est ça. Là. On va en parler à 14 heures. Puis moi, je l'ai bien connue, Marguerite Blais. Là. On va avoir bonne discussion à 14 heures là-dessus. Mais je vais vous dire, quand une ministre, dans une entrevue, a l'air de faire porter le chapeau au PM, je vais vous dire, en général...
Sa carrière achève.
En général, elle dure pas bien, bien longtemps. Mais je referme cette parenthèse, Luc. Je veux pas qu'on l'ait. La discussion, on va l'avoir un peu plus tard. Faut s'en aller à la pause. Je te remercie.
À tantôt.
Et après la pause, la belle histoire dont je vous ai parlé, David Philippe, surnommé Magic Man, l'homme magicien, pour toutes sortes de raisons. Il vit en Gaspésie, on le rejoint un peu plus tôt. Je vous le dis là, partez pas.